Ouverture, une émission proposée et animée par Christine Baron.
Et voilà, pour la deuxième fois, la quatrième de couverture se fait loin du studio, loin des autres, loin des micros, devant mon ordinateur, mais évidemment sous l'aile protectrice de Sarah. Comme toujours, mais de loin, merci Sarah de rafistoler tous les sons que je t'envoie. Isolée donc comme vous tous, mais comme on a décidé de ne pas se laisser abattre, en attendant que reviennent des jours meilleurs, on en saura plus à la moitié du mois de mai, on a préparé la 7e édition de notre petite émission culturelle, sans chichi, mais en famille, qui sera diffusée dès le 4 mai sur Radio Albatros, mais toujours accessible en podcast avec les autres, sur le site de la radio. Alors, quel est le programme du numéro spécial confinement de mai ? On reviendra sur ce qui nous a marqué en avril. On cherchera un peu de tendresse dans le roman de François Morel qu'il a si joliment joué sur scène, Les habits du dimanche. Et la quatrième de couverture du mois de mai, alors on fera parler qui ? Eh ben, confinement oblige, on a imaginé l'interview de quelques écrivains qui se sont livrés au cours des siècles à des confessions sur leur façon de travailler. Ce sera notre quatrième de couverture de confinement. Enfin, on lancera quelques pistes pour aborder le joli mois de mai en douceur. Alors, allez, go, c'est parti! Alors, en avril, on a fait quoi? On a inventé une nouvelle façon de vivre la culture. Bien heureux, évidemment, si on a souffert ni de près ni de loin du virus qui a imposé sa loi à la planète et qui a balayé d'un coup nos habitudes si douillettes d'amateurs de vie culturelle partagée. Terminées les fêtes de quartier, les sorties au cinéma, les grands rendez-vous au théâtre, les concerts, les conférences, les expos, finis. En vrai, plus rien en avril. Et après quelques jours de suspense, toute la vie culturelle a été suspendue jusqu'en juillet, en Normandie comme en France. Jazz sous les pommiers à Coutances, festival de Beauregard à Caen, puis Avignon reporté en partie peut-être à la Toussaint, et tous nos rendez-vous ont disparu, rien à Fécamp, rien au Havre, ni à Goderville, ni à Saint-Valery, rideau. Il nous a donc fallu inventer autre chose. C'est alors que la culture numérique a déferlé sur nos écrans en faisant valser les contraintes. Fini le combat épuisant et toujours recommencé pour limiter l'accès des enfants aux écrans, c'est devenu leur outil de travail obligé pour suivre l'école à la maison comme pour le télétravail des parents. Les verrous ont sauté, plus de limites, plus de frontières. Évidemment, on n'a pas boudé notre plaisir devant l'offre pléthorique, toujours renouvelée et diversifiée de la culture pour tous. Donc depuis un mois, on se promène, on peut visiter tous les musées du monde, voir ou revoir des films innombrables, des pièces de théâtre, des conférences, des concerts. Et chacun a construit son parcours personnel de découverte en découverte, mais impossible d'en rendre compte ici, évidemment. Seulement, on n'a pas été rassasié pour autant, parce qu'on est une foule sentimentale, comme chante Souchon, et qu'on fuit l'extra-moderne solitude. Des projets, alors, ont vu le jour un peu partout pour qu'on devienne, nous-mêmes, les auteurs de notre propre vie culturelle. Des concerts virtuels, des lectures collectives, des séances de cinéma ensemble, mais toujours sur le net, des chansons au balcon. Sans se déplacer, c'est extra, mais tout ce qu'on faisait avant ou après tout ça, ben c'est ça qui nous manque. Retrouver ses amis, avant le film, après le spectacle, dans la salle, faire lever toute la rangée pour aller s'asseoir à notre place, à côté d'eux, serrer des mains, s'embrasser, partager le même accoudoir, bavarder, rire ensemble, sortir quoi. Et aller boire un verre. Où ça ? Au café ? Au bistrot ? Justement, dans le monde du 19 avril, parce que on a le temps de lire le journal en plus de tout le reste, évidemment, Michel Dallony a écrit un joli texte sur ses rêves de comptoir, une ode à ces endroits agréables quand ils sont déserts, mais agréables aussi quand ils sont bruyants. Ces plaisirs tout bêtes qu'on a hâte de retrouver, évidemment. Attendre quelqu'un en terrasse, rêvasser en regardant les passants, écouter l'air de rien les conversations des voisins en attendant l'heure de la séance de notre film. Ou se faire un film dans le bois, le claquement des verres, le tintement des pièces de monnaie dans la soucoupe. Rêver, imaginer qu'on est dans un film de Claude Sauté avec Yves Montand, dans Garçon par exemple, et qu'il virevolte d'une table à l'autre avec sa gouaille bien parisienne. Ou tout simplement, comme ici, être dans le pays de Caux, à Gonneville, un jour de marché, et là, on est sûr de rencontrer quelqu'un qu'on connaît sur le coup de 11h. Sinon, pas de problème. On entame la conversation avec les voisins, avec des « Ah, c'est vous les filles de Marcel ?» ou des « Mais oui, c'est avec vous qu'on a randonné le mois dernier. » Bref, on s'échappe du confinement en rêvant. Michel Dallony, le journaliste du Monde dont on parlait tout à l'heure, donnait aussi quelques adresses parmi ses bistrots préférés. Rien en Normandie, hélas. Mais on va lui envoyer notre liste personnelle. La plus proche de ses adresses, c'était en Mayenne, le Café de la Place à Château-Gontier. Avis aux amateurs. Il recommandait aussi quelques lectures sur le zinc. Par exemple, Café, etc. de Didier Blonde, paru l'an dernier au Mercure de France, où l'auteur, amoureux des cafés, ces lieux de la conversation, dresse par petites touches l'inventaire des plaisirs minuscules qu'on y trouve. Le comptoir, la banquette, les allées et venues des clients, les lumières. Ces cafés, qui sont aussi des lieux d'écriture pour de nombreux écrivains, des lieux de rendez-vous amoureux, des lieux de scènes de films célèbres, ces lieux de rencontres de toutes sortes où le langage est roi. Et à côté de Didier Blonde ou de Patrick Modiano, l'article du Monde citait aussi Jean-Marie Gouriot qui avait collecté de 87 à 2015 des perles pleines d'humour et de gouailles entendues ici ou là, des brèves de comptoir, dignes souvent de dialogues de Michel Audiard. Et si on ne peut plus aller ni au cinéma ni au bistrot, on peut encore ouvrir des livres pour s'évader et retrouver le sourire avec cette collection de bons mots dont Jean Carmé s'était emparé pour la série télé Palace des années 80 et que Jean-Michel Ribes a adapté avec succès à la scène et à l'écran. Et puis, si on a une baisse de morale, on pourra toujours penser à cette brève-là. « T'as pas l'air dans ton assiette, toi ?»« Bah non, je suis sur le bord. » Ça nous aura fait rire un peu, comme chantait Brassens. Brassens, bah justement, on a donné son nom à un prix littéraire qui vient de récompenser les Cafés, etc. de Didier Blonde. Eh bien, voilà, il me semble, le moment d'ouvrir notre parenthèse littéraire. Faute de spectacles nouveaux, on a donc pioché dans nos bons souvenirs de théâtre. En 2000, François Morel avait adapté son deuxième roman, « Les habits du dimanche », pour en faire un spectacle qui s'était posé au volcan au Havre juste avant Noël. On a eu envie de relire quelques pages de ce roman sur un enfant qui ressemble sans doute au petit François Morel. Et que nous dit la quatrième de couverture des « Habits du dimanche » ?
François Morel, Les habits du dimanche. Un quotidien jalonné d'événements cocasses, tendres, tragiques. Une vie de famille ordinaire et extraordinaire, vue avec la naïveté de l'enfant, le désenchantement de l'adolescent et la nostalgie de l'adulte. Une chronique pleine de poésie sur la vie d'un petit cocon familial qui vous laisse une saveur douce amère de paradis perdu.
Des événements cocasses et tendres, pleins de poésie, le paradis perdu. Mais c'est tout à fait ce qu'il nous faut, ça.
Ma sœur dit, aînée, c'est ce qu'il y a de mieux. La première fois, les parents, ils font leur enfant avec spontanéité. Après, ils se répètent, l'histoire bégaye, aînée, c'est ce qu'il y a de mieux. Mon frère dit, cadet, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour faire un enfant, les parents, ils ont besoin d'au moins 2 essais. La 3e fois, ça devient parfait. Cadet, c'est ce qu'il y a de mieux. Je dis, 2e, c'est ce qu'il y a de mieux. La 1ère fois, ils savent pas comment faire. La 3e fois, ils savent plus. 2e, c'est ce qu'il y a de mieux. On est rarement d'accord dans la famille. Ça met de l'ambiance, comme on se le raconte les jours de fête, quand on est de bonne humeur. Ça fait chier, comme on constate les autres jours, le plus souvent, autant dire. La seule chose qui réussit à calmer tout le monde, c'est de feuilleter l'album de photos. Certains visages, on les reconnaît. Tata Madeleine, par exemple, double menton, double foyer, elle a toujours été vieille. Parfois aussi, on est surpris. Mémé Germaine, que nous n'avons pas connue, était en réalité une souriante jeune fille de 22 ans. Elle a sur la tête un chapeau en noir et blanc avec des fleurs et des oiseaux que nous avons coloriés à la main. Elle a au bras un gaillard à moustache, mon grand-père. Ah, lui. Quand je vois ces photos de jeunesse, je n'arrive pas à y croire. Il était comme vous et moi, surtout comme moi. D'abord parce que je suis jeune, ensuite parce que j'ai hérité de son grand nez, de ses grandes oreilles décollées. Ma sœur, elle a eu droit à son regard de taupe. Mon frère, à son menton en galoche. Certaines familles se disputent pour des questions d'héritage. Ce ne fut pas le cas chez nous, chacun a eu sa part. Sous une photo, il y a écrit « Papy a 10 ans ». Ça devait lui faire drôle qu'on l'appelle papy, alors que ses camarades de classe jouaient encore aux billes et à chat des lots. C'est à peu près au moment de la naissance de ma sœur que grand-père entra franchement dans la carrière de grand-père. Je suppose que c'est à partir de là qu'il se procura l'attirail nécessaire, sa panoplie d'aïeuls. Paire de lunettes avec branches cassées, journal ouvert page mots croisés, chapeau, pipe, feu de bois, canne, raclement de gorge et quelques ennuis de prostate. Son prénom c'est Antoine, mais ça ne lui va pas. Antoine, à mon avis, c'est un prénom de jeune. Quelle idée de se prénommer Antoine quand on a plus de 75 ans. Enfin, c'est pas la peine de s'énerver, à peu près personne ne l'appelle comme ça, seules quelques rares connaissances de sa génération, Monsieur Timon, Mademoiselle Soupe, s'entêtent à utiliser son nom de baptême. À vrai dire, je me demande comment grand-père peut s'y retrouver entre ceux qui l'appellent Antoine, ceux qui lui font du Monsieur Verblanchot, papa qui l'appelle papa, maman un peu snob qui dit papy, celle qui est écrite sous la photo, une petite douzaine de vieillards réunis tous les ans à l'hôtel de la Poste le premier dimanche de septembre, ça permet de se recompter après les grosses chaleurs de juillet et août, qui l'appelle la classe. Et nous, mon frère, ma sœur et moi, qui l'appelons grand-père. Il en faut moins parfois pour se demander qui on est. Heureusement, pour nous, c'est plus simple. Moi, c'est Adrien. Grand-père me dit « Adrien, c'est un prénom de vieux. Quelle idée de se prénommer Adrien quand on a moins de 75 ans ?» Mon petit frère, c'est Sébastien. Ma grande sœur, Marilyn. Moi, je suis le seul à l'appeler Marilyn. Personne ne le saura jamais.
Jacques Tati, parce que la musique qu'on entend encore là, c'est la bande originale de son film Mon Oncle, sorti en 1958, presque pour la naissance de François Morel à Flers en Normandie. On regarde toujours avec plaisir ce film plein de poésie, délicate observation d'un monde qui change. Tourné en banlieue parisienne et en studio, les deux lieux du film symbolisent bien le passage brutal entre deux époques, la vie d'avant, celle de Monsieur Hulot, qui enchante Gérard, son neveu, chaleureuse et pleine de fantaisie, et la vie moderne, qui efface à coups de pelleteuse les vieux quartiers pour y construire des maisons luxueuses et sans âme. Et entre les deux, Tati qui se balade la pipe au bec sur son Solex. Donc d'un côté, le vieux quartier où l'oncle grimpe dans son pigeonnier, près des nuages, où flâne le nez en l'air dans le marché coloré et bruyant ou au bistrot. Et de l'autre, la villa des parents du petit Gérard, hyper fonctionnelle, moderne, mais froide et sans émotion, sans vie, quoi. Et puisque notre quatrième de couverture est une petite émission culturelle, on peut rappeler que mon oncle a décroché en 59 l'Oscar du meilleur film étranger. Mon oncle à Hollywood, pas en Solex quand même. Mais alors pourquoi Tati et François Morel et pourquoi cette musique-là subitement? Eh bien, d'abord parce qu'ils posent tous les deux le même regard tendre et poétique sur le monde qui les entoure, sur les enfants. Mais aussi parce que François Morel, comédien, a fait partie de la troupe des Deschiens de Jérôme Deschamps et Macha Makeyev, les héritiers de Tati, dont ils ont restauré les films, mon oncle notamment, et qu'il continue à faire vivre sa mémoire à travers les films de mon oncle, créés il y a 20 ans, ou alors à travers des expos, des installations, pour ne pas perdre sa trace. Alors nous aussi, on s'est amusé à retrouver les traces d'auteurs célèbres pour qu'ils nous en disent plus sur leur travail d'écrivain, pour qu'ils nous livrent leur quatrième de couverture. Et en piochant au hasard dans l'étude d'Alain Duchesne et Thierry Leguet, Qu'est-ce qu'un écrivain ? On a imaginé une interview à travers les siècles et on a obtenu une quatrième de couverture originale, celle d'une bibliothèque tout entière. Qui dit mieux ? Alors, vous tous qui occupez nos rayons, nos bibliothèques, pourquoi écrivez-vous ?
Tous les écrivains se demandent un jour pourquoi ils écrivent. Et bien sûr, pourquoi ? À la première question, une réponse simple consiste à dire, comme La Fontaine, « Le ciel m'a fait auteur » ou Borges, « J'écris car tel est mon destin ». Souvent, face à la difficulté de répondre, le propos se fait désinvolte, désabusé, voire inquiet. Bataille. Ce qui m'oblige à écrire, j'imagine, est la crainte de devenir fou. Beckett. Bon qu'à ça. Bernanos. J'écris pour me justifier aux yeux de l'enfant que je fus. Borges. J'écris pour moi, pour mes amis, et pour adoucir le cours des choses.
On s'est toujours interrogé dans cette rubrique sur le sens d'un titre, sur son histoire. Alors, comment choisit-on un titre ?
Situé en première ligne, exposé à tous les regards sur la couverture, le titre est un lieu sensible. C'est le nom du livre. En somme, son rôle est moins d'informer le lecteur que de l'attirer, comme une enseigne lumineuse. Ce dont se plaignait Balzac, les titres des livres sont souvent d'effrontés imposteurs. Qui n'a eu à maudire leurs mensongères annonces et cet art de battleur qui promet, pour ainsi dire, sur l'enseigne d'un ouvrage, ce que l'on ne trouvera pas dedans. Mais les auteurs ne sont pas toujours les mieux inspirés. Et les proches amis ou les éditeurs ont parfois de meilleures idées. Voici quelques titres non retenus. Apollinaire, Eau de vie, alcool. Balzac, Le gars, les chouans. Carole, Les aventures souterraines d'Alice. Alice au pays des merveilles. Éluard, L'art d'être malheureux, capitale de la douleur. Laurence, Constance Chatterley, l'amant de Lady Chatterley. Proust, Les colombes poignardées, à l'ombre des jeunes filles en fleurs.
Choisir un titre, c'est donc penser à ses lecteurs à venir. Alors, pour qui écrivez-vous, messieurs les auteurs ? À quel lecteur idéal avez-vous rêvé en rédigeant vos dédicaces ?
Plus j'avance en âge, plus je m'aperçois qu'on n'est pas lu, disait Cocteau. Les dédicaces modernes indiquent cette crainte de ne pas être entendu. L'adresse aux autres se fait alors misanthrope, décalée, ironique, surprenante ou désabusée. Au chat miton, Léoto, propos d'un jour. À qui dédier cela ? Barbet d'Orvilly, les diaboliques. À celle-là seule que j'aime et qui le sait bien, dédicace commode que je ne saurais trop recommander à mes confrères, elle ne coûte rien et peut du même coup faire plaisir à 5 ou 6 personnes. Allez, Hans Riebeck ou le coup de l'étrier, dans Pas de Bile. Je dédie ces pages à ceux qui les liront mal et à ceux qui ne les aimeront pas. Éluard, poésie ininterrompue.
Enfin, qui se cache derrière les noms d'auteurs imprimés sagement sur les couvertures? Un nom d'emprunt, un pseudonyme, un anagramme?
Le pseudonyme permet un redoublement de la personnalité, indispensable pour un poète qui est engagé en même temps dans une activité publique, remarque Saint-Jean-Perse. Habiter un nouveau patronyme permet de rejeter un père détesté. Henri Bell se transforme en Stendhal. Et Gérard Labruni en Gérard de Nerval, du nom d'une terre appartenant à la famille de sa mère. Heureusement, l'affection peut faire pièce au ressentiment. Aurore Dupin devint Georges Sand en souvenir de son amant, Jules Sandeau. Belle postérité pour cet écrivain largement oublié. Enfin, il arrive que l'écrivain juge son nom trop banal pour soutenir une carrière littéraire. Julien Viaud préféra s'appeler Pierre Loti, nom d'une fleur du Pacifique. Et Louis Poirier, Julien Gracq. Marguerite de Crayoncourt, Marguerite Yourcenar. Charles Dodgson, Lewis Carroll. Marguerite Donadieu, Marguerite Duras. Pierre Dumarchais, Pierre-Marc Orlan.
Merci Gilles, et merci à vous tous les auteurs endormis sur nos étagères. Voilà qui va nous donner envie d'aller dévaliser les librairies et retrouver le chemin des médiathèques, peut-être aussi celui des cinémas. Alors, que va-t-on inscrire dans nos agendas du mois de mai ? Pas besoin d'agenda pour planifier notre vie culturelle numérique. L'offre plus riche de jour en jour nous attend, quand on veut, sur le net. Pour le reste, on est suspendu aux décisions officielles et au calendrier de déconfinement pour le mois de mai. On espère tous avoir quelques rendez-vous à l'extérieur quand même, à partir du 11 mai, si tout va bien. Avec nos familles, nos enfants, en pensant à Tati, à François Morel, au petit Gérard, au petit Adrien, à sa Riline, sa Marilyn, aussi éblouissante pour lui que celle des écrans américains, Marilyn Monroe, qui était née à Hollywood. La star jamais récompensée par un Oscar, pourtant. Hollywood, Hollywood, la ville des stars, des étoiles. Eh bien, City of Stars, ça, c'est le titre d'une chanson de La La Land, la joyeuse comédie musicale de Damien Chazelle, qui a raflé en 2017, on s'en souvient, une brassée d'Oscars bien méritée. Et quoi de mieux qu'un film musical pour annoncer le mois de mai? On pourra peut-être commencer à ressortir, si tout va bien, suspense. Donc un film où on chante, où on danse, dans les rues, dans les jardins, et même sur l'autoroute. Rappelez-vous le joyeux bazar de la scène d'ouverture du film. Un embouteillage monstre, des bagnoles en ribambelle, les vitres ouvertes, cacophonie des autoradios, des klaxons, que des sons qu'on n'entend plus trop aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, tout à coup, des garçons et des filles aux tenues multicolores qui bondissent pour danser au milieu des voitures. Un hommage à Jacques Demy et Michel Legrand, que revendique d'ailleurs Damien Chazelle, lui qui est un amoureux fou de ce cinéma joyeux, plein de ballets, de chansons, et un amoureux fou de musique tout court aussi. On avait adoré son Whiplash en 2014, qui racontait l'affrontement brutal entre un jeune batteur de jazz et son professeur. Un solo de batterie de 90 minutes. Un film haletant sur le dépassement de soi par la musique, récompensé lui aussi à Hollywood, comme l'avait été par 3 fois Michel Legrand pour ses films avec Demy. Alors quittons-nous avec le joyeux duo d'Emma Stone et Ryan Gosling qui chantent La ville des étoiles, la City of Stars, et qui dansent devant Hollywood illuminé sous un beau ciel étoilé, loin des masques et des gestes barrières.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
Everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance,
a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars,
you never shine so brightly.
Et voilà. Merci Sarah, merci Gilles, merci Thomas, et rendez-vous la première semaine de juin pour la 8e édition de la 4e de couverture. On a hâte d'en savoir plus sur l'avenir de la vie culturelle, les réouvertures des salles de spectacle, de cinéma. On en saura plus à la fin du mois de mai. Alors d'ici là, portez-vous bien.
C'était la 4e de couverture, une émission proposée et animée par Christine Barou.